Bon, voilà la paracha de la semaine. J'ai donné un cours hier, on va continuer aujourd'hui. Un petit peu, on va avoir une autre façon de voir. Hier, j'ai commencé à expliquer dans un cours, vous n'étiez pas là, vous tous, comment de la paracha on apprend à lutter contre son Yetzara et à quel résultat on arrive. On voit dans la paracha qu'on nous parle des Chachmelev, la paracha de la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié la paracha avec elle. La paracha avec elle, c'est après la faute du veau d'or. Mon cher Rabbeinu va réunir tous les bénis Israël pour leur expliquer différentes lois. La première loi qu'il leur explique, c'est la loi du Shabbat. Dans la paracha d'avant, on nous parle déjà du Shabbat. Et dans la paracha d'avant, on nous parle encore du Shabbat. On va nous reparler de la Ktoret, on va nous reparler des encens qu'on faisait dans le temple, que c'était la meilleure façon, entre guillemets, d'annuler quand on faisait des encens dans le temple. C'était une chose qui annulait toutes les mauvaises sentences dans le ciel. D'où la coutume, chez beaucoup, de faire le pror. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez les grands-mères. Vous avez entendu parler de ce truc-là? D'accord, elles font le pror dans la maison, d'accord, elles prennent des encens, elles font passer dans la maison pour enlever les mauvaises choses, les mauvaises ondes dans la maison. C'est à l'origine, on s'inspire de quoi? C'est en souvenir de la Ktoret, des encens qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Maintenant, c'est pas assour, vu qu'on n'utilise pas du tout les mêmes encens. C'est en souvenir. Et dans beaucoup de cas, ça marche. Soit c'est un effet placebo, que dans la tête des gens, ça les aide à faire les choses, de mieux accepter les choses et de se débarrasser parfois d'éléments qui sont dans leur tête, d'accord? Ou des fois, ça marche réellement. Réellement, on a déjà vu des gens qui avaient des problèmes et ça a marché pour eux. Donc, on voit comme ça, j'ai eu le cas de personnes qui ont eu des gros soucis d'argent. À la fin, ils ont même pris des bureaux. Quand ils ont eu de bureau en bureau, ils ont eu des problèmes, jusqu'au dernier bureau qui a brûlé. Donc, on ne peut pas faire mieux que ça. Les gens ont fait leur propre, et après on voit que les choses se débloquent pour eux. Donc des fois, réellement, ça peut marcher. Comme quoi, les minacs de grand-mère, il ne faut pas trop les dénigrer. Mais on voit comme ça, on voit qu'en réalité, quand on nous parle des Chachmelev, c'est quoi les Chachmelev? Quand ils ont fait le Mishkan, on voit la façon dont on devait faire le tabernacle, c'était très compliqué. D'accord? Le Baréa Hatichon, par exemple, c'était un bâton que quand on construisait le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, on plantait des poutres en bois, recouvertes d'or, elles étaient plantées dans des socles en argent. Après, pour toutes les maintenir, il fallait rentrer un bâton, donc c'était en rectangle, d'accord, avec trois murs, d'accord, trois côtés, et en fait, le bâton, quand on le rentrait, il était droit, et ce bâton, extraordinairement, il arrivait à faire le tour du rectangle.
D'une seule partie.
D'une seule partie. C'est-à-dire, tu rentres le bâton était aspiré de lui-même. Non, il était aspiré de lui-même, tu n'avais même pas besoin de le rentrer. Le bâton, il était aspiré de lui-même, il faisait le tour, comme ça, du rectangle. Donc c'est le Baréa Hatichon, d'accord? Ce bâton-là, c'est extraordinaire, c'est un miracle en lui-même. Donc on voit qu'il y avait énormément de choses. Maintenant, on voit que les bénis Israël, comme j'expliquais hier, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas tous ces métiers de joaillier, d'orfèvre, etc. Eux, ils ont passé leur temps en Égypte à fabriquer des briques, d'accord? Pour construire des murs, pour construire des villes. C'est ce qu'ont fait les bénis Israël. Tous sauf les Lévi'im. Lévi'im, durant les 210 ans, ils ont été en Égypte, les Bnei Israël. Il faut savoir que sur 210 ans, il n'y a que 86 ans où les Bnei Israël ont été réellement réduits en esclavage, sur les 210 ans. Et que sur ces 86 ans-là, les Lévim n'ont jamais porté une pierre, n'ont jamais été réduits en esclavage. Paro, Pharaon, il les a jamais embêtés. Il n'y a que les 6 derniers mois où Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a commencé à faire des makotes en Égypte, etc. Sur les 6 derniers mois, Pharaon, il a pété un plomb, il a dit même les Lévi'im, attends, vous allez travailler. Mais en réalité, sur 210 ans, les Lévi'im, ils n'ont jamais porté une pierre. Tous les Bnei Israël, quand ils étaient esclaves pendant 86 ans, d'accord, réellement, de dur labeur, sur les 210 ans, ils donnaient le maaser aux Lévi'im pour les laisser étudier la Torah. Comment ça se fait que Pharaon, un tyran qui réduit un peuple en esclavage, laisse une partie du peuple tranquille? Parce qu'ils voyaient qu'ils étaient attachés à la Torah. Donc on voit que les Bnei Israël, quand nous on est attachés à la Torah, nos ennemis, ils nous lâchent, entre guillemets. Ça c'est une chose qui est très importante. Aujourd'hui on voit en France, avec la montée de l'antisémitisme, ce qui est en train de se jouer. Alors c'est vrai, on pourrait parler d'Alia, de venir en Israël, etc. C'est une très bonne chose. J'encourage tout le monde à venir en Israël. Moi j'habite là-bas, il n'y a pas mieux, pas au Hachem. Pour un juif, il n'y a pas mieux au monde. On a notre État, on a notre armée, on a nos yeshivot, on a tout ce qu'il faut. Même si on a des différends entre nous là-bas, on est en train de construire un État, c'est jeune, ça va venir avec le temps, on va finir par tous se mettent d'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vraiment ça qui est en train de se jouer. Parce que les gens, ils vont quitter une problématique en France, ils vont trouver une autre problématique en Israël. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, à travers l'antisémitisme qui monte partout en Europe, c'est la teshuvah du clan d'Israël. C'est nous, chaque juif, comment on va faire teshuvah. C'est ça qui est en train de se jouer. La Torah, elle est partout avec nous. Et la teshuvah, on peut la faire de n'importe quel endroit dans le monde. C'est ça qui est en train de se jouer. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik, Kadosh Livracha, il nous rapporte une chose extraordinaire. Il a dit, comporte-toi comme un juif, tout ira bien. C'est quoi un juif? Un juif, il fait sa tfila, il donne la tzedaka, il met ses tfilines, il fait shabbat. Qu'est-ce qu'on voit? Après la faute du Vaudor, de quoi il nous parle, mon cher Rabbeinu? La première chose dont il nous parle dans la paracha, c'est le shabbat. Shabbat, c'est la base de tout. Quand on se renforce déjà le shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi, j'ai une façon un peu particulière de m'occuper des gens quand ils veulent faire shabbat. Il y a des gens qui ont un problème, parfois, qui est très difficile à surmonter le shabbat, des gens qui fument beaucoup, toute la semaine. Comment ils peuvent faire le shabbat sans la cigarette? Alors, j'ai un truc qui marche, et qui a marché avec beaucoup de monde. Je dis aux gens, écoute, voilà, tu fumes combien de paquets par jour? Admettons, tu fumes 3 paquets par jour, ça peut arriver. C'est une petite fortune à la fin du mois, c'est ton problème. Maintenant, là, n'est pas le problème. Le shabbat, t'enlèves une cigarette. Tu fais shabbat, essaye de faire shabbat, va à la synagogue le matin, va kiffer, avec tes amis, va prier, fais ce que tu as à faire shabbat, fais un petit kidouche à la synagogue, rentre à la maison, fais un petit kidouche, renforce-toi, fais ce que tu peux comme tu peux au début, mais tu rentres dans une dimension qui s'appelle le shabbat à ton niveau à toi, et la cigarette, tu la diminues. Tu enlèves chaque shabbat une cigarette. Le shabbat d'après, tu enlèves 2 cigarettes. Le shabbat d'après, tu enlèves 3 cigarettes. Je connais un garçon qui est arrivé au stade, il fumait 3 ou 4 paquets par jour, il arrive à la fin à 5 cigarettes par shabbat. À force d'enlever les cigarettes. Quand il arrive à 5 cigarettes Shabbat, il s'est dit, attends, je suis plus qu'à 5 cigarettes, il s'est dit, allez, j'enlève la cigarette Shabbat. Mais en parallèle, il s'est dit, bon, alors, si je commence à enlever les cigarettes, alors viens, j'allume plus le feu. Alors viens, je prends plus la voiture. Alors viens, je mets une minuterie sur ma télé. Alors viens, je touche plus l'ordinateur. Etc. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, il n'a plus de minuterie sur sa télé. Il n'y a plus de télé. Il n'y a que le Shabbat et le garçon le kiffe aujourd'hui. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Pourquoi Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor, il nous parle en premier lieu du Shabbat? Quand un homme il s'attache à la Kedusha, on dit que toute la semaine, Dieu nous a donné 6 jours. Les 3 premiers jours de la semaine, ils dépendent du Shabbat précédent. Et les trois derniers jours de la semaine, c'est pour nous aider à mieux préparer le Shabbat à venir. Et on le voit quoi, hein, il y a une loi qui nous dit une chose extraordinaire. Un homme, à la fin de Shabbat, on sait tous qu'on doit faire Avdallah. Maintenant, Avdallah, tu peux le faire jusqu'à quand? Avdallah, tu peux faire jusqu'à mardi toute la journée. Quand tu rentres dans mardi soir, en réalité, selon le calendrier hébraïque, Vaïre, Vaïboker, comme c'est écrit dans Bereshit, ce fut la nuit, ce fut le jour, Yom Echad, c'est un jour. Une nouvelle journée, une nouvelle tranche de 24 heures chez nous, commence à la tombée de la nuit. Le Shabbat, on ne le fait pas rentrer samedi matin, on le fait rentrer vendredi soir. Donc de ce fait, on nous dit quoi? À partir de mercredi soir, tu ne peux plus faire Avdallah. Pourquoi? Parce que dimanche, lundi et mardi dépendent encore du Shabbat précédent. Donc tu peux encore faire la Avdallah. Et jusqu'à mardi, tu peux dire Shavuot Tov à ton prochain. À partir de mercredi, on se dit Shabbat Shalom. Et on ne peut plus faire la Havdalah. Si on n'a pas fait la Havdalah, Motsé Shabbat. D'accord? Donc on voit qu'il y a un rapport qui est particulier. Ce qui veut dire que toute ta semaine n'existe que dans une réalité qui s'appelle le Shabbat. Que tous les 6 jours où toi tu vas travailler pour gagner de l'argent, etc., c'est pour entrer dans une dimension qui s'appelle le Shabbat. C'est quoi la dimension du Shabbat? C'est une dimension où on se réunit en famille. Autour d'une table, on va à la synagogue, on se réunit avec des amis, on va à un cours de Torah. On réfléchit. On réfléchit à quoi autour d'un cours de Torah? On réfléchit à, un, c'est quoi d'être juif? Deux, c'est que c'est un véritable kiff. Ça doit être un kiff, d'accord, d'être juif. Trois, de se renforcer autour des lois juives, parce que ça renforce le couple, ça renforce le foyer, ça renforce le rapport parent-enfant, d'accord? On voit qu'il y a des lois sociales dans le judaïsme qui ont de loin, précédé d'autres civilisations qui sont venues après. D'accord? Alors on va parler peut-être, pour certains historiens, de culture sumérienne, que même la datation elle n'est pas très claire, d'accord? Qui aurait précédé le judaïsme, etc. Même les datations de ces cultures-là, elles ne sont pas très claires. Et quand on voit leur code de loi, c'était franchement un peu barbare par rapport au code de loi juif. On voit que c'est beaucoup plus évolué chez nous. On voit par exemple le statut de la femme. Bien que la femme, elle hérite par rapport à son mari, ou elle hérite par rapport à son père, donc il y a un titre de propriété qui dépend de l'homme, une jeune femme avant le mariage qui a acquis des biens, qui a commencé à travailler, qui a monté une société, Même si elle se marie, les biens lui appartiennent. Le jour où elle divorce, elle récupère ses biens. On protège le droit de propriété de la femme. Ça, on l'a fait bien avant tout le monde. Les femmes, chez nous, on le voit dans le Talmud, dans Kiddushin d'Aflamet d'Alet, on recommandait à tous les hommes d'épouser une femme d'affaires qui gagnait bien sa vie. Ça veut dire que chez nous, les femmes, elles ont toujours été actives. On encourageait les femmes à être instruites et actives. Parmi nos sages, les sages de la Mishnah, il y a une femme, c'est la femme de Rabbi Meir Balanes, Bruria, qui a eu des enseignements, qu'on a retenu, des grandes choses. Elle a fait de grandes choses, Bruria. La fin de ses jours est controversée, mais on ne peut pas lui enlever tout ce qu'elle a fait à Bruria. Parce qu'elle aurait fait preuve d'orgueil au Bruria. Donc l'orgueil, on apprend de là, pour un homme comme pour une femme, ce n'est pas une bonne chose. Mais en réalité, c'est quoi? Et qu'on voit que même les plus grands maîtres peuvent tomber dedans. Mais il n'y a pas que Bruria, on a eu d'autres grands maîtres qui ont eu des problèmes d'orgueil, d'accord? Qui ont après, qui eux aussi, sont passés d'un chemin à un autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu viens et on te dit après la faute du veau d'or, on se réunit, la première chose dont on te parle, c'est le Shabbat. C'est pour te faire comprendre en tant que juif que toute ta réalité, en tant que juif, elle passe par cette étape qui s'appelle le Shabbat. Que même ça peut prendre la tête, entre guillemets, parce qu'on te dit n'allume pas la lumière, prends pas la voiture, fais pas ceci, fais pas cela, etc., etc. Quand tu comprends en réalité que, on te dit en réalité, on te limite pour que tu te retrouves en famille, pour que tu te trouves autour d'une table, pour que tu t'occupes de ta femme, pour que tu t'occupes de tes gosses, pour que tu parles de Torah, pour que tu prennes le temps d'éduquer tes enfants, que tu n'as pas forcément le temps à la semaine de prendre du temps pour ta famille. D'accord? Et qu'autour de ça, on t'impose certaines lois qui régissent des énergies dans ce monde. Je vais vous donner un truc simple. On voit qu'il y a certaines cultures asiatiques où chez eux, la méditation, c'est quelque chose de très important. Ils ne sont pas en train de prier. C'est des exercices de respiration où on nous demande de méditer. Et les gens après se sentent mieux. La méditation, chez le juif, c'est la prière. On a commencé à méditer bien avant tout le monde. Quand on vient, on nous dit qu'il y a une tfila belachash, qu'il y a une amida qu'on fait trois fois par jour, et on prie à voix basse. On demande des choses à Dieu. On est en train de méditer. Et on essaye d'instaurer un dialogue entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et que quand le dialogue il est instauré, Akadosh Baruch Hu commence à nous ouvrir les portes. Il ne nous répond pas en nous parlant. Il nous répond à travers notre vie. On fait un petit cours de Torah, on arrête le cours de Torah, on va appeler des clients après, Baruch HaShem. Les clients, ils vont répondre positivement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans la Torah, il y a un terme extraordinaire qui est écrit, Venatnu. D'accord? Venatnu, il se traduit de deux façons différentes. Il se traduit, soit on peut dire que c'est une personne au singulier qui a donné à plusieurs personnes au pluriel, donc il leur a donné, ou soit on peut dire que c'est plusieurs personnes, donc le pluriel, qui a donné au singulier. Soit ils lui ont donné. Ça veut dire quoi? Toi, quand tu donnes à Dieu, Dieu il te rend. D'accord? C'est le Gaon de Vilna qui explique ça. Maintenant, ce qui est extraordinaire, quand tu prends le mot Venatnu, tu l'écris à l'endroit. Qu'est-ce que tu dis? Venatnu. Tu l'écris à l'envers. Venatnu. Tu regardes. Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Et on le fait à l'envers. Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Pareil. À l'endroit, à l'envers, il vient pareil le mot. Il se lit pareil. Pourquoi? C'est pour te dire qu'il y a un rapport de réciprocité entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quand on vient et on comprend qu'on est dans ce monde pour un petit peu s'annuler au niveau de nos plaisirs, au niveau de notre personne, Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous rend. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce bitoul là? C'est dans Tehilim, on en parle très bien. On te dit Sourmera, voilà, c'est Tov. D'accord? Enlève le mal de toi et fais le bien. D'accord? Bakesh Shalom Verotfeu. Demande la paix, en réalité Shalom, c'est la perfection, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom sublime d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit dans une maison qu'il faut le Shalom Bayit, Shalom Bayit, c'est pas la paix du ménage, comme on traduit en bon français. Shalom Bayit, c'est la perfection dans la maison. Quand est-ce qu'il y a la perfection dans la maison? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il réside dans la maison? La Gemara nous dit, lorsque l'homme, entre l'homme et la femme, il y a le nom de Dieu. Comment on écrit le nom de Dieu, le nom de l'homme? Aleph Yuchin, le nom de la femme, Aleph Shin He. T'enlèves le nom de Dieu qui est le Yud et le He, qu'est-ce qui reste? Esh, aussi bien chez l'homme que chez la femme, le feu. T'enlèves une essence divine entre l'homme et la femme dans le foyer. T'enlèves le Shabbat, t'enlèves la Kashrout, t'enlèves le rapport de réciprocité, le respect qu'il doit y avoir entre un homme et une femme que nous impose la Torah, le respect qu'il doit y avoir entre un enfant et ses parents, l'obligation qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants. Tu enlèves tout ça, il reste que le feu dans la maison. Et en réalité, c'est quoi le Shalom Bayit? C'est quand Dieu réside dans la maison. Quand est-ce que Dieu réside dans la maison? Il ne réside pas dans la maison quand tout va bien, quand on est super religieux. Parce que ce n'est pas ça la règle. Il réside dans la maison quand le couple il est uni face à l'adversité. Parce que la vie, c'est une vie qui est faite d'épreuves. La vie, elle n'est pas facile. Quand on va travailler, c'est pas facile. Quand on va appeler des clients, quand on va faire quoi que ce soit, c'est pas facile d'obtenir son argent à la fin du mois. C'est pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, dans ces périodes, dans la période dans laquelle on est en train de passer, la crise économique dont on est en train de nous rabattre les oreilles depuis bientôt 10 ans, d'accord, et qui s'arrête pas, et même plus de 10 ans, c'est depuis 2001 qu'on nous parle de la crise économique, d'accord, on voit quoi? On voit qu'elle s'arrête pas, et c'est une période qui est très difficile. Pourquoi en réalité? Parce que ce qui est en train de se jouer, comme il s'est écrit dans les livres des prophètes, comme c'est écrit dans la Gemara, Be'acharit Hayamim, dans les derniers jours avant la venue messianique, à Kadosh Baruch Hu, il va faire différentes choses. Un, les gens ne pourront plus blairer les rabbins. On n'aimera pas ceux qui étudient la Torah. On voit qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le plus grand des amours pour ceux qui étudient la Torah. On voit qu'on a même tendance à dire, parce que parfois il y a des abus, c'est vrai que ça existe, parfois il y a des escrocs, c'est vrai que ça existe, mais on fait une généralité. On a trouvé 2-3 escrocs, on va rendre tous les rabbins des escrocs. On va se rendre compte de 2-3 abus, on va dire que tout le monde abuse. Ce qui est faux. On ne peut pas faire des généralités comme ça. Il y a du bon, il y a du mauvais chez tout le monde. Pour quelle raison? Parce que quand David Amelech, il nous dit dans les Tehillim, enlève le mal de toi, il te dit de quoi? Il te dit, travaille sur ton Yetzara. Quel rapport avec la paracha? J'ai parlé des Chachmelev. Les Chachmelev, on dit que ce sont des gens, quand ils sont sortis d'Égypte, comme je l'ai dit au début du cours, ils n'ont en Égypte fabriqué que des briques pour fabriquer des murs et des villes. C'est tout ce qu'ils ont fait, les Juifs. Comment d'un seul coup on voit des gens qui travaillent l'or, qui travaillent les métaux précieux, qui arrivent à faire des choses extraordinaires, qui travaillent les tentures, d'accord? Qu'on voit, il y a des pots qui ont été travaillés avec des tentures faites en laine, d'accord, d'animaux. Mais il faut voir le travail qui a été fait. Comment ils sont devenus d'un seul coup, ils connaissent la broderie, ils connaissent toutes ces choses-là. En plus, savoir dans quelles conditions on leur demandait de faire des choses. Chaque élément qui a été fait pour le Mishkan à l'époque, si nous on essaye de faire ça aujourd'hui, c'est impossible selon les lois de la nature. Dans chaque élément qu'ils ont fait pour fabriquer le Mishkan, il y a eu besoin d'un miracle. Il y a eu besoin d'un miracle. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit une chose extraordinaire. On dit en réalité que ces gens-là, ils étaient tellement proches de Dieu parce qu'ils ont eu le droit au Matan Torah, au dévoilement divin sur le Har Sinaï. Ils ont tellement eu envie de servir à Kadosh Baruch Hu que Dieu leur a mis la Chochma dans le cœur. On appelle ça Chachmelev. C'est quoi une Chochma dans le cœur? Quelqu'un d'intelligent. On dit qu'il a une bonne tête, mais pas de son cœur. En réalité, on voit quoi? On voit que le cœur, il y a toutes nos émotions qui passent par le cœur. Quand on s'énerve, notre rythme cardiaque, il s'emballe. Quand on s'excite, notre rythme cardiaque, il s'emballe. Quand on a envie de quelque chose, notre cœur s'emballe, entre guillemets. Ça passe par le cœur. Ça passe pas par la tête. Mais là, on dit quoi? On dit qu'en réalité, leur chorma est descendu dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cœur, si tu passes par tes sentiments, comment tu as des mauvaises pulsions? Comment t'es tenté de faire le mal? Parce que t'as une envie. Ça passe par quoi? Par les sentiments. Les sentiments, ils sont dans le cœur. C'est comme ça qu'on dit. Parce que ça a une influence sur notre cœur. Quelqu'un de très nerveux, qui s'énerve tout le temps, on dit que c'est pas bon pour son cœur. On dit à Koes, comme Nishginom Sholtingbo. Dans la Gemara, c'est écrit, celui qui se met en colère, il y a toutes sortes d'enfers qui prennent le contrôle de lui. D'accord? Mais on dit pas dans le monde futur. Dès maintenant, dans le monde ici, on voit que les gens qui se mettent en colère, ils ont des problèmes de digestion. Ils ont des problèmes de cœur. Ils prennent sur leur santé. On le voit autour de nous. En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit, quand toi, tu enlèves le mal de toi, tu enlèves totalement le Yetzarara de ton cœur. Tu enlèves les mauvaises pulsions, les mauvaises envies, pour te rapprocher de la Torah et des mitzvot. Tu ne réfléchis pas deux fois quand il y a un cours. Tu fonces, tu dis, attends, je vais un petit cours, 10 minutes, un quart d'heure. Après, j'ai rechargé mes batteries. J'y vais, après, je fonce pour faire mon boulot. C'est la même chose avec les tefillines. Les tefillines, c'est une chose que j'explique à beaucoup de gens. On voit les tefillines, il y a le boîtier qu'on met sur le bras, proche du cœur, et le boîtier qu'on met sur la tête, proche du cerveau, pour faire l'équilibre entre notre cœur, nos sentiments, et notre cerveau, pour que notre date, d'accord, notre raison, prenne le dessus sur nos sentiments, qu'il y ait un véritable équilibre, et qu'on arrive à purifier notre cœur, entre guillemets. Et ça veut dire quoi? À partir de ce moment-là, tu enlèves le mal de toi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça purifie ta neshama. À quel niveau? Les gens ne se sont jamais posé la question réellement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, attends, moi je mets les tefillines. Ça fait quoi de mettre les tefillines? C'est un boîtier en cuir, avec des lanières en cuir, tu le mets comme ça, il y a un parchemin, il y a des parachutes écrits dessus, c'est tout. Maintenant, en Baruch HaShem, on voit qu'à travers le temps, il y a beaucoup de nouvelles inventions, et on arrive à trouver les bonnes idées pour expliquer aux gens ce qui se passe avec la Torah et les mitzvot. En réalité, quand vous avez un téléphone portable ou un ordinateur, il a une batterie. La batterie, vous avez besoin de la recharger. L'aneshama, c'est la même chose. L'aneshama, elle a besoin de se recharger. Maintenant, l'aneshama, elle est constituée en 5 parties différentes. D'accord ? Il y a une partie inférieure qui s'appelle le nefesh. D'accord ? Après, il y a 4 parties supérieures qui s'appellent ruach, chaya, yechida, neshama, qui sont en dehors du corps de l'homme. Et en réalité, le lien entre le nefesh, qui est ici, au niveau de notre plexus, qui est attaché ici, au niveau de notre corps, et qui monte jusqu'ici, au niveau du front, là où on met les tefillin, d'accord ? De là, quand le nefesh il vient se rattacher au ruach, à une autre dimension supérieure qui s'appelle chaya, à une autre dimension supérieure qui s'appelle yechida, et à la dimension suprême, qui est tout en haut, proche d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle neshama. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité qu'il y a 4 dimensions qui sont attachées au corps de l'homme, mais qui sont en dehors de l'homme. Ces 4 dimensions de la neshama, elles ont besoin d'être purifiées pour arriver à purifier notre nefesh à l'intérieur du corps. Comment on fait ? Quand tu poses les tefillin sur ta tête, il y a quoi en haut ? Il y a 4 parachutes différentes qui sont dans le boîtier il est divisé en 4 espaces différents. Dans chaque espace, on a rentré une paracha.
C'est pour ça que le chine, il y a quatre branches sur le chine.
Exactement. Ouais, et en fait, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à chacune de ces 4 parties de la neshama qui est en relation avec le corps, mais qui est en dehors du corps. Et pour arriver à purifier le nefesh et le corps, en réalité, on a besoin de se connecter à ces neshamot qui doivent se subdiviser dans le ciel, pour chacun à son niveau, à elle, dans sa dimension, dans la dimension du roi, dans la dimension de la chaya, dans la dimension de la yechida, dans la dimension de la neshama, d'arriver à se recharger. Et c'est ça qu'on fait. Quand tu mets des tefillin, en réalité, ta neshama, elle recharge. C'est comme si dans le ciel, tu as une prise avec 4 trous. D'accord ? Mais que tu as un appareil, en réalité, un flux d'énergie qui est uni. C'est qu'une seule ligne directe. Et en fait, tu as besoin de créer 4 lignes pour entrer dans les 4 trous qui sont dans le ciel pour recharger ta neshama. C'est ça que tu fais quand tu mets tes tefillin. Et ça dépend uniquement de l'homme, pas de la femme. Parce que quand l'homme, il fait ça, il recharge toutes les neshamot de l'humanité, pas que la sienne. Et ça permet dans le monde de voir dans le monde se développer plus de bien. Donc on voit la force des tefillin du juif. Raison pour laquelle le rabbi Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il a été très pointilleux de dire il faut aller partout dans le monde chercher les juifs pour leur mettre des tefillin. Et c'est une chose où le rabbi Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il avait raison. À 10 000%, parce que c'est comme ça que tu répares le monde. Et en réalité, quand tu dis quoi ? On dit « Sur mes raves, c'est top, tu répares ton cœur. » Quand tu répares ton cœur, tu arrives au niveau du Chacham Lev. Que Kadosh Baruch Hu lui met la Chokhma dans le cœur. On voit quoi en réalité ? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je ne vais pas étudier la Torah parce que je ne comprends pas l'hébreu. » Tout est traduit en français aujourd'hui. Tu ne comprends pas l'hébreu. C'est traduit dans toutes les langues. Les antisémites, entre guillemets, ils vont prendre des livres traduits, parfois mal traduits, pour les déformer et les utiliser, entre guillemets, contre nous. Chas v'shalom, il faut bien pouvoir leur répondre à ces gens-là. Sinon, on n'étudie même pas la Torah, alors qu'il y a des rabbinim qui ont pris le temps de faire des bonnes traductions aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mauvaises traductions qui ont été faites à travers l'histoire de la Torah. Et aujourd'hui, il y a des livres aux maisons d'édition, aussi bien au Beit Lubavitch que les éditions Kolbo, ou d'autres maisons d'édition, les éditions Kol Edition, etc., qui ont fait des superbes traductions. Pourquoi s'en priver ? On voit, il y a la Torah Box, ils ont fait plein de bouquins qui sont super bien. Pourquoi s'en priver ? En réalité, c'est quoi ? On n'a plus d'excuses. Et quand on prend un peu de temps pour étudier la Torah, pour essayer d'enlever le mal qu'il y a dans notre cœur, alors on se met sur la bonne voie, entre guillemets. On se met sur la bonne voie et ça nous permet de mieux avancer dans la vie. Pourquoi ? Parce que ça apporte un équilibre. Quand après un homme, il a une difficulté avec un de ses enfants, il saura dialoguer avec son fils. Pas lui crier dessus. Pas le frapper. Dialoguer. Parler. Un enfant, on dit qu'à partir de l'âge de 3 ans, il a une obligation d'être éduqué, parce qu'il commence à comprendre les choses. Et à partir de 7 ans, il commence à avoir sa propre échelle de valeur. Ce qui veut dire qu'un enfant, à partir de l'âge de 7 ans, c'est un petit adulte. Il comprend les choses. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de penser que leurs enfants, c'est une prolongation d'eux-mêmes. Donc, ils doivent fonctionner exactement comme leurs parents. Quand un enfant ne suit pas le chemin des parents, ils disent « Pourquoi il ne suit pas notre chemin ?» Parce que ton enfant, c'est une personne différente de toi, qui a sa propre échelle de valeur. Sinon, on n'arrive pas à comprendre et à instaurer un dialogue avec les personnes autour de nous. Si on prend les gens de haut, on se croit mieux qu'eux, il n'y a pas de dialogue. Parce qu'on est plus vieux, parce qu'on est plus âgé, parce que c'est mon enfant, ou parce que c'est mon élève, etc. Il n'y a pas de dialogue possible. La personne, elle n'a pas envie de discuter avec toi. Quelqu'un qui te prend de haut, t'as pas envie de disputer avec lui. Un Kadosh Baruch Hu, il te prend autre chose, qui est extraordinaire. Et on va terminer là-dessus, je vous laisse travailler. Bezrat Hashem, que vous ayez une excellente parnassa. Que tout le clan d'Israël ait une excellente parnassa. Pour que tout le monde puisse venir facilement en Israël, sans être obligé de venir en Israël. Qui viennent pour le kiff. Bezrat Hashem. Qu'on soit tous ensemble, autour de la Torah, avec le Bet Hamikdash, Bemei Rabbi Aminu, Amen.
Amen.
Bon. Le dernier point qu'il y a, c'est quoi? On voit un autre point. Quand toi, tu veux discuter avec quelqu'un, tu veux instaurer un dialogue avec une personne. Si tu parles avec la personne, elle ne te répond pas. Et à la limite, mieux que ça, elle a son copain ou un ami à côté d'elle, cette personne-là, et elle parle avec son ami. Toi, tu es en train de lui parler. Elle ne t'écoute pas, elle parle avec l'autre. C'est pas que tu arrives à te parler déjà avec l'autre. Toi, tu es en train de discuter avec la personne, elle te regarde, au lieu de te répondre, elle se met à parler avec l'autre, elle t'ignore total. Cette personne-là, après, quand elle va revenir te revoir, tu as envie de discuter avec elle? T'as pas envie de discuter avec elle. C'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut parler avec nous, il nous a donné une Torah, il nous a donné des mitzvot, il veut instaurer un dialogue. Il nous envoie des épreuves pour nous obliger à instaurer un dialogue. On dit, si tu vois quelqu'un qui aspire à être un tzaddik, je dis, tu vois un tzaddik dans les épreuves, sache que c'est pour son bien. Pourquoi? Parce qu'il a envie de se rapprocher de Dieu. Donc Dieu, il lui envoie des épreuves pour qu'il cherche à se rapprocher encore plus de Dieu. Et des fois, tu vas voir quelqu'un, un rachat, un mécréant, un type qui est vraiment, c'est une pourriture. Et tout lui réussit. On dit que sache que c'est pour son mal. Pour qu'il ne ressente même pas le besoin de faire tes choix. Donc en réalité, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous envoie des épreuves. Pourquoi? Parce que nous, on n'instaure pas le dialogue avec lui. Et on ne l'écoute pas. Quand nous, on va à la synagogue, au lieu de prier, au lieu de répondre Amen, on n'écoute pas Akadosh Baruch Hu, on n'écoute pas sa prière. On n'écoute pas les prières qu'il nous a instaurées par nos maîtres. On ne fait pas tout ça. Donc comment tu veux qu'il y ait un dialogue? Toi-même, tu le sais. Si quelqu'un, tu vas commencer à parler avec quelqu'un, et il ne t'écoute pas, à la fin, tu n'as pas envie de l'écouter quand il va venir te parler. Et c'est ça en réalité. Nous, aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer à travers le monde, c'est la réinstauration du dialogue de tout le clan israël avec Akadosh Baruch Hu. De tout le clan israël avec Akadosh Baruch Hu. Alors je vous dis une chose, moi je suis à Bnei Brak, je ne suis pas Lubavitch, mais je vous dis une chose, un enseignement qu'a dit le Rabbi avant de tomber malade. C'est une de ses dernières sikhot. Il a dit une chose extraordinaire, et je vais sans doute le dire grossièrement, parce que je ne l'ai pas très très bien étudié. Mais l'idée essentielle, c'était celle-là. C'était de dire qu'après lui, il n'y aurait plus aucun amour de Lubavitch. Que le mouvement Lubavitch a fait sa part dans le monde, entre guillemets, et maintenant c'est à chaque juif de faire les efforts qu'il faut pour amener Mashiach. Que eux, tous les admorim de Lubavitch, ils ont fait leur part pour diffuser une grande Torah à travers le monde. Et on voit qu'il n'y a pas que les Lubavitch. Tous les grands maîtres ont diffusé une très grande Torah à travers le monde. Une très grande Torah à travers le monde. Et on voit que Baruch Hashem, il y a eu des mouvements comme Lubavitch, comme Breslev ou comme d'autres, qui sont lui qui ont diffusé une grande Torah à travers le monde, pour que les gens restent besimcha, pour que la Torah soit un kiff. Et on voit aujourd'hui les gens, quand ils vont au Bet Rabat, ils kiffent. Quand ils vont au Bet Lubavitch en France, ils kiffent. Parce qu'il y a la simcha. Et que dans tous ces endroits-là, il faut réinstaurer la simcha. Dans la synagogue, il faut qu'il y ait la simcha, il faut qu'on kiffe, il faut réinstaurer le dialogue. Il ne faut pas avoir peur de parler avec son rabbin, de dire on veut kiffer un petit peu. On veut venir, tu veux, on vient à la synagogue, on ne parle pas, on ne parle pas. Mais on veut un kidouche à la fin. On veut se retrouver entre nous, on veut une petite siouda et on veut un dvar Torah. On veut faire les chaïm et on veut un dvar Torah. Nos rabbanim en Tunisie, ils le faisaient. Pourquoi ils ne le faisaient pas? Ils le faisaient. Quand on nous rapporte Rabbi Chaim Taïeb Lomet, qui pour se consoler à ce qui paraît, quand sa mère, quand il était jeune, aurait brûlé tous ses divrei Torah, parce qu'il aurait perdu tous ses divrei Torah, ça c'est une histoire vraie, il se serait mis à bord de la boucha. En réalité, Rabbi Chaim Taïeb, qu'est-ce qu'on nous raconte? Je vais vous terminer sur une petite histoire tunisienne que vous allez kiffer. Si on est entre nous,
du Torah.
C'est pas grave pour vous. C'est pas votre faute. Toutes les chamottes, elles viennent du Maroc. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que tous les matins, quand on dit Modéani, Lefanecha, Melecha, Evekam, Shechizarta, Binishmati, Bechemla, Rabba et Mounatecha. Rabba, c'est la capitale du Maroc. Donc apparemment, toutes les chamottes viendraient du Maroc. D'accord? Mais la Torah est une, ça je vous rappelle. Elle est une et indivisible. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que Rabbi Chaïteb, on rapporte qu'il buvait de la boucha. Mais en réalité, on dit quoi? Nichnas yain yosetsot. Quand un homme arrive à un certain niveau de sainteté, on voit un homme, quand est-ce qu'il a le da'at à Torah? On lui dit, on juge un homme sur trois choses. D'accord? C'est les trois kaf. On dit, kiso, koso, vekaaso. Sa poche, comment il gère son argent? D'accord? S'il est généreux, s'il gère justement son argent, s'il n'est pas trop dépensier. Un type qui gagne 100 euros, il ne va pas s'amuser à dépenser 500 euros. Il doit faire attention à son argent. Ce n'est pas être radin. c'est bien réfléchir comment on gère son argent. Et s'il cherche à faire le bien avec son argent. Ça, c'est une chose. Et s'il va faire kiffer sa femme, ses enfants, ses proches avec son argent. S'il a compris que la parnassa, c'est pour faire des mitzvot, pour avoir une belle paire de tefillin, pour s'acheter à Soukot des bois arba minim, faire une belle souka, par exemple, à Hanouka, avoir une belle Hanouka. S'il utilise cet argent pour ça, et faire plaisir à ses proches autour de lui, tout en étant raisonnable. Et faire plaisir aussi aux pauvres qu'il connaît autour de lui, pour les aider, tout en étant raisonnable. Ça, c'est premièrement. Après, on dit Koso, sa façon qu'il a de boire et de manger. Comment il va se comporter? Est-ce qu'il mange pour manger? Que c'est un gros gourmand. Ou est-ce qu'il mange pour être en bonne santé? Et aussi, quand il va boire, quand on va lui faire boire de l'alcool, comment il réagit? Est-ce qu'il devient nerveux? C'est pas bon. Est-ce qu'il devient méchant? C'est pas bon. Est-ce qu'il s'endort? C'est pas super. Est-ce que ça devient rigolo? C'est pas top. Mais si après il devient tout gentil, il parle que de divrei Torah. Ou il fait que des brachot. Parce qu'on a des gens comme ça. Quand ils boivent, ils veulent embrasser tout le monde, ils veulent faire que des brachot. On dit ça, c'est une neshama. Ça, c'est une neshama, et en plus, il a le da'at Torah. S'il parle de divrei Torah, en plus. Donc ça, c'est koso. Et kaaso, sa façon qu'il a de se mettre en colère. On dit que la colère, elle sert à rien. Par contre, on peut, pour mettre la pression à un enfant, ou à quelqu'un, lever un peu la voix et lui faire un peu un visage un petit peu dur. D'accord? Sans réellement se mettre en colère. Ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est là-dessus qu'un homme est jugé. Maintenant, on nous dit quoi? Quand tu viens, tu fais boire de l'alcool à quelqu'un, sors le secret. Donc, tu peux interpréter, c'est la véritable nature de la personne qui remonte à la surface. D'accord? Tu peux interpréter aussi que s'il il a le da'at Torah, alors il y a des dévoilements divins qui vont se faire à lui. Et on voit en réalité qu'on a eu beaucoup de grands maîtres comme ça qui buvaient de temps en temps un petit verre d'alcool, pas Chas v'Shalom pour être des alcooliques, tout simplement pour avoir le droit à ce dévoilement divin. Et une histoire avec Rabbi Chaytaï Blomet. À un moment donné, son cousin, Rabbi Yitzhak Chaytaï Blomet, les deux portaient le même nom, en réalité. Parce que leur grand-père, c'était Yitzhak Chay. D'accord? Et en réalité, alors il y en a un qu'on a appelé Rabbi Chaytaï Blomet, et l'autre on l'appelle le Rabbi Yitzhak Tayeb, qui était le grand rabbin de Tunisie, son cousin, à la même période. Qui a décidé d'interdire à tous les commerces de vendre de l'alcool à Rabbi Chaytaï. Il a dit, pour son kavod, tout le monde est en train de mal parler de lui, quand il le voit boire de la boucha. Pour le kavod de la Torah, le kavod de Rabbi Chaytaï, on va interdire à tout le monde de vendre de l'alcool. Rabbi Chaytaï, il a essayé d'acheter de la boucha, personne ne voulait lui vendre. Il est rentré dans le Beth Midrash, au moment du cours de Rabbi Yitzhak Tayeb, le grand rabbin de Tunisie. Il regarde son cousin, il dit, toi, t'as voulu me fermer le robinet en bas, moi je vais te fermer le robinet en haut. Rabbi Yitzhak Tayeb, à ce moment-là, il a oublié toute la Torah qu'il avait appris, grand rabbin de Tunisie. Un pasouk, le premier mot de la Torah, Bereshit, il avait oublié, il avait tout oublié. Il dit, attends, je t'avertis, tu me réouvres le robinet en bas, je te réouvre le robinet en haut. Il a compris que, un, Rabbi Chaytaïb, il faisait beaucoup de nachat ruach, il apportait beaucoup de plaisir à travers son étude à Kadosh Baruch Hu dans le ciel. Et que, deuxièmement, on ne parlait pas d'une personne qui était alcoolique parce qu'il buvait un petit verre de temps en temps. On parlait réellement d'un homme qui avait des intentions très particulières au moment où il buvait de l'alcool pour avoir des dévoilements divins. C'est pour ça qu'on voit qu'au moment où, chez Lubavitch, ils vont faire Farbingen, il y a un énian de faire les chaïm, qu'on voit que chez les juifs, il y a ce hénien entre juifs, quand on se renie le jour de fête, de boire du vin et de faire les l'échaïm entre nous. Attention, pas pour devenir sous. Parce qu'on dit, à Purim par exemple, Chaya Vinish Libisoumé. D'accord? Dans la Gemara, on dit que tout homme aura l'obligation de se parfumer au vin. Ça veut pas dire bois jusqu'à tomber par terre. On dit bois jusqu'à que tu confondes Mordechai et Aman. Entre guillemets. Entre guillemets. C'est pas ça en réalité. C'est en réalité, on nous dévoile dans la Kabbalah, que c'est pas de boire jusqu'à perdre le contrôle de soi. Ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Ça peut faire du Chilul Hashem. C'est d'arriver à voir le bien à travers l'histoire de Purim. Arriver à voir le Nes à travers l'histoire de Purim. Et on se parfumait au vin, entre guillemets, pour parler de Divrei Torah et arriver à voir que le côté négatif. Quand même, l'histoire de Purim, vers laquelle on est en train de se rapprocher, on parle quand même d'un homme qui a tenté de massacrer tous les Bnei Israël à travers 127 pays. J'ai nommé Aman. D'accord? En dépensant 10 000 grosses pièces d'argent dans le trésor du roi Assuérus, de Achashverosh. Et il y a une dernière chose qu'on va dire et qui est très très belle, que les gens ne connaissent pas. On nous rapporte que les Bnei Israël, à partir du moment où, après la faute du Vaudor, pour l'indication du Mishkan, ils vont donner le Machatit à Shekel, tous les hommes de la génération à partir de l'âge de 20 ans, et tous les hommes de cette génération-là, vont continuer, entre guillemets, parce qu'on est sorti d'Égypte, 600 000 hommes. Après la faute des explorateurs, il y a toute la génération qui a participé à la faute, ne va pas rentrer en Israël. Donc, et chaque année, le soir du Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc, avant Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe, et le soir du Tisha B'Av, ils rentraient dans leur tombe parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Tous ceux qui ont participé à la faute des explorateurs. Mais on voit, malgré ça, qu'il y a une nouvelle génération qui est venue au monde dans le désert et qu'on est rentré 600 000 hommes en Israël. Et en réalité, depuis la période où on est sorti d'Égypte et les 40 ans qu'on est rentré dans le désert, et encore 10 ans après être rentré en Israël, durant 50 ans, le nombre d'hommes au sein du clan Israël était de 600 000 hommes. Et on nous rapporte en réalité que durant ces 50 années, le machatit hashekel, d'accord, le demi-cycle d'argent qu'ont donné tous les juifs durant ces 50 années, équivalait chaque année à 200 grosses pièces d'argent. Et on voit en réalité, donc kikare kesef, d'accord, 200 kikare kesef. Si je prends 50 ans, fois 200, j'obtiens quelle somme? 10 000. On voit que c'est par le mérite de la tzedaka que nos pères ont donné durant 50 ans à partir de la sortie d'Égypte, pour le Mishkan, pour les Kohanim, pour les Lévim, ceux qui s'occupaient du temple, d'accord. On voit que durant ces 50 ans-là, cette petite misva-là a permis l'annulation du décret de Haman à Pourim. Donc c'est ça qu'on doit arriver à voir. Que même à travers le mal, on doit arriver à devenir comme Rabbi Akiva qui nous dit « Akol Letova ». Alors Akol Letova, ce cours aussi, c'est Akol Letova. Ce petit quart d'heure, c'est Akol Letova Bezrat Hashem. Une bonne parnassa à tous. Bracha Vatzlacha. Et Shabbat Shalom.
C'est beau, non.